Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1975. Surveiller et punir Naissance de la prison est un essai historique et philosophique dans lequel Michel Foucault retrace la transformation des pratiques pénales occidentales entre elles, âge classique et le 19e siècle. Son point de départ est le contraste entre le supplice public, qui atteignait visiblement le corps du condamné, et la peine carcérale moderne, plus discrète mais insérée dans un vaste réseau de contrôle. L'ouvrage ne propose pas une simple histoire humaniste de l'adoucissement des peines. Il examine plutôt les techniques de pouvoir qui ont rendu possible une justice centrée sur l'enfermement, l'observation, l'évaluation et la correction des individus. La prison y apparaît comme un élément d'une société disciplinaire qui comprend aussi l'école, la caserne, l'atelier et l'hôpital. Par une généalogie des institutions et des pratiques, Foucault interroge la manière dont les normes sociales façonnent les corps, les conduites et les identités, notamment celles du délinquant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du supplice souverain à une pénalité qui vise les conduites. Foucault ouvre son enquête par la description d'un supplice du XVIIIe siècle, puis lui oppose un règlement carcéral du XIXe siècle. Cet écart ne signifie pas simplement que la justice serait devenue plus douce ou plus rationnelle. Dans le supplice, la peine est une cérémonie publique par laquelle le souverain réaffirme la force de la loi violée. Le corps du condamné est le lieu visible de cette démonstration. Avec les réformes pénales, le châtiment corporel spectaculaire recule et l'exécution de la peine tend à se soustraire au regard collectif. Toutefois, le pouvoir punitif ne disparaît pas, il se déplace. Il s'intéresse moins au seul acte illégal qu'à l'individu qui l'a commis, à ses dispositions, à son histoire et à sa dangerosité supposée. La sanction s'accompagne alors de savoirs médicaux, psychologiques, administratifs et judiciaires. Juger revient de plus en plus à apprécier une personnalité autant qu'un délit. Foucault met ainsi en cause le récit d'un progrès pénal linéaire. La diminution de la violence physique peut aller de pair avec une intervention plus continue sur les comportements. La peine moderne prétend corriger et réadapter, mais elle étend aussi les prises institutionnelles sur l'existence du condamné. Deuxièmement, la discipline comme fabrication de corps dociles et utiles, le noyau théorique du livre est l'analyse de la discipline, comprise comme un ensemble de procédés minutieux permettant d'organiser et de rendre calculables les conduites. Foucault montre que ces procédés se développent dans des institutions diverses écoles, armées, manufactures, hôpitaux et prisons. La discipline répartit les individus dans l'espace, fixe les places, règle les horaires, décompose les gestes et coordonne les activités. Elle ne repose donc pas uniquement sur l'interdiction ou la violence directe. Elle agit par l'entraînement, la répétition, la comparaison et la correction. L'individu est traité comme un être dont les capacités peuvent être observées, améliorées et utilisées. La disposition des élèves dans une classe. Le rang militaire ou l'organisation d'un atelier ont ainsi une dimension politique, ils rendent chacun repérable tout en inscrivant tous les participants dans un ordre commun. Cette analyse explique pourquoi Foucault ne réduit pas le pouvoir à l'État ou à une décision souveraine. Le pouvoir circule dans des pratiques ordinaires, souvent techniques et locales. Son efficacité tient à sa capacité de produire des aptitudes, des habitudes et des hiérarchies. Les corps deviennent dociles parce qu'ils sont soumis, mais aussi utiles parce qu'ils sont formés en vue d'objectifs institutionnels précis. Troisièmement, surveillance hiérarchique, jugement normalisateur et examen, Foucault isole trois instruments complémentaires du pouvoir disciplinaire. La surveillance hiérarchique repose sur une architecture et une organisation qui rendent les personnes visibles à des autorités, elles-mêmes intégrées dans une chaîne de contrôle. Il ne s'agit pas seulement de regarder la visibilité, permet de comparer les comportements, de repérer les écarts et d'intervenir rapidement. Le jugement normalisateur ajoute une échelle d'appréciation. Les individus sont mesurés par rapport à des attentes de régularité, de rendement, de conduite ou de compétence. Les petites pénalités disciplinaires corrigent ainsi des retards, des gestes, des attitudes ou des manquements qui ne relèvent pas forcément du droit pénal. Enfin, l'examen combine surveillance et normalisation. Il produit des dossiers, des notes, des classements et des descriptions individuelles. L'examen transforme une personne en cas connaissable et comparable. Il est central parce qu'il lie l'exercice du pouvoir à la production de savoir sur les individus. Cette articulation aide à comprendre que les institutions ne se contentent pas d'appliquer des normes préexistantes, elles contribuent à les définir en établissant des catégories, des seuils et des trajectoires. L'analyse foucauldienne invite donc à étudier concrètement les critères, les archives et les procédures par lesquelles une population est rendue administrable. Quatrièmement, le panoptisme et l'intériorisation possible du contrôle, la figure du panoptique, projet architectural de Jeremy Bentham, condense l'analyse foucauldienne de la surveillance moderne. Dans ce modèle, des détenus placés dans des cellules périphériques peuvent être observés depuis une tour centrale, sans savoir à quel moment ils le sont effectivement. L'enjeu n'est pas l'omniprésence matérielle d'un gardien, mais l'installation d'une situation dans laquelle chacun doit se comporter comme s'il était observé. Le contrôle devient potentiellement permanent, tout en pouvant être exercé avec une économie de moyens. Foucault emploie ce schéma comme un diagramme du pouvoir disciplinaire, et non comme la description exhaustive de toute institution réelle. Le panoptisme éclaire l'extension de logique de visibilité, d'enregistrement et d'autocontrôle dans des espaces qui dépassent la prison. Il permet surtout de comprendre un changement de mécanisme. L'obéissance ne dépend plus uniquement d'une démonstration ponctuelle de force, mais de l'aménagement durable d'un champ de surveillance. Cette idée ne doit pas être réduite à une annonce générale de la surveillance numérique contemporaine. Elle fournit plutôt une méthode examinée comment un dispositif organise les regards, distribue l'information, incite à l'autodiscipline et rend certaines conduites plus probables que d'autres. En dernier lieu, la prison produit la délinquance autant qu'elle prétend la combattre. Dans la dernière partie, Foucault s'attaque au paradoxe central de l'institution carcérale. Dès le 19e siècle, de nombreux observateurs constatent que la prison ne remplit pas les promesses de réformation qui justifient son existence, elle favorise la récidive, fragilise les liens sociaux et rassemble des personnes pouvant s'influencer mutuellement. Pourtant, ces critiques répétées ne conduisent pas à sa disparition. Pour Foucault, il faut donc se demander ce que produit effectivement la prison au lieu de la juger seulement à l'aune de son objectif déclaré. Sa réponse est que l'appareil pénal contribue à isoler une délinquance identifiable, surveillable et utilisable dans une gestion plus large des illégalismes. Tous les actes contraires à la loi ne sont pas traités de manière identique. Les pratiques illégales sont différenciées selon les groupes sociaux, les intérêts économiques et les priorités politiques. La délinquance devient alors une catégorie particulière associée à des individus repérés, fichés et suivis. Cette thèse ne signifie pas que les crimes seraient imaginaires ou que la prison serait sans effet coercitif. Elle déplace la question vers les fonctions sociales et politiques de l'échec carcéral. L'ouvrage oblige ainsi à distinguer les finalités affichées de la pénalité et ses résultats institutionnels observables. En conclusion, Surveiller et punir s'adresse aux lecteurs de philosophie, d'histoire, de sociologie, de droit, de criminologie et de sciences politiques, mais aussi à toute personne souhaitant examiner avec précision la place des institutions dans la vie collective. Sa lecture demande de l'attention. Foucault construit une argumentation dense, fondée sur des transformations historiques, des règlements et des dispositifs, plutôt que sur une thèse immédiatement résumable. Le bénéfice intellectuel majeur du livre est de fournir des outils pour analyser les rapports entre savoir, normes et pouvoir. Il aide notamment à poser de meilleures questions sur l'école, la justice, le travail, la santé ou les procédures d'évaluation, quels comportements sont rendus visibles, selon quels critères, par qui et avec quels effets. L'ouvrage se distingue des histoires classiques de la prison parce qu'il ne traite pas l'enfermement comme une institution isolée ni l'évolution pénale comme une simple marche vers l'humanisation. Il relie la naissance de la prison à des techniques plus vastes de discipline et à la constitution d'individus observables et normalisables, comparé à un plaidoyer pour ou contre la prison. Il offre une généalogie critique plus exigeante. Il montre comment une institution peut persister malgré ses échecs apparents en remplissant d'autres fonctions. Cette perspective demeure particulièrement féconde à condition de l'employer comme méthode d'enquête, et non comme formule automatique pour assimiler toute règle sociale à une domination. Si vous souhaitez soutenir Michel Foucault, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.